بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب شافان ورميسي الله عز وجل qui nous donne la possibilité de reprendre ce programme à propos de la résurrection, des joies du Qiyama, des étapes de l'au-delà, jusqu'à l'accès des Jannati au Jannat et l'accès, nasallallahu alayhi wa sallam, des Jahannami au Jahannam. Ça, c'est l'objectif de ce programme qui fait suite au programme sur les petits et ensuite les grands signes du Qiyama. Il y a donc l'étape de l'au-delà, quand Allah Azza wa Jal ressuscitera la totalité des créatures, des makhlouqat, qui ont eu un ruh dans leur corps, qui ont vécu sur le dunya ou sur d'autres dunya, wallahu a'lam. Cette étape, c'est al-iman bil yawm al-akhir. Et on avait commencé à citer les différentes étapes de l'au-delà, et on avait expliqué la dernière fois, c'était le dernier chapitre, comment est-ce qu'Allah Ta'ala va juger les gens le jour de la résurrection, quelles seront les règles du jugement dernier. Et la dernière fois, si je ne me trompe, on avait commencé à voir quelle sera la situation des pécheurs le jour de Qiyam. On avait dit qu'on verra deux catégories de personnes, le pécheur et le mu'min muttaqi, le musulman qui avait cumulé de bonnes actions. Et concernant la situation des pécheurs, on rappelle que lorsqu'on parle, on avait cité quatre catégories de péchés pour l'instant, on avait dit que cela concerne des musulmans. On ne parle pas de gens qui ne croyaient pas en Allah ou qui adoraient d'autres divinités, des kuffars ou des mushrikis. Non, on parle essentiellement des personnes qui, comme vous et moi, ont lu la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, mais qui, à cause de certains péchés qu'ils avaient pris l'habitude de faire de ce dunya, péchés pour lesquels ils n'avaient pas demandé pardon à Allah Azza wa Jal avant de quitter ce monde, alors ces musulmans, malheureusement, n'ont pas eu le tawba, le pardon de la part d'Allah. Et donc, la conséquence directe, c'est quoi? C'est qu'ils se présentent le jour de la résurrection devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des péchés qui sont amassés, qui sont cumulés dans le livret d'action. Et la mauvaise nouvelle commence déjà au moment du gharghara, au moment de l'agonie, lorsque Malik al-Maut vient prendre l'âme du musulman. C'est là que vraiment le musulman voit dans quelle situation il va être. Lorsqu'il voit l'apparence de Malik al-Maut, soit c'est un ange de rahma, de bénédiction qui arrive, soit c'est un ange rempli d'obscurité, un ange effrayant qui vient reprendre l'âme. Donc c'est déjà un premier signe. Et dans le tafsir de, si je ne me trompe pas, c'est dans Hal Atak Hadith al-Rashiya. Oui, dans Hal Atak Hadith al-Rashiya, les Mufassirs expliquent que dans ce sourate qu'on est en train de, alhamdulillah, de commenter, d'essayer de voir un petit peu les leçons qu'il y a de sourate al-Rashiya au Latanier. Et chaque sourate est riche, ça il n'y a pas de doute. Mais le surat al-Rashiya a cette particularité de résumer la situation de l'au-delà. Ce n'est pas compliqué. Tout d'abord, Allah Ta'ala met en garde et Allah Ta'ala sollicite l'attention du Prophète, bien sûr, mais des musulmans d'une manière générale sur ce moment extrêmement important que sera al-Rashiya, un des noms du Qiyamah. Et ensuite, Allah Azza wa Jal va décrire les deux catégories de personnes qu'il y aura le jour du Qiyamah. Deux catégories parce qu'il n'y en aura pas trois. La première catégorie, وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٍ, et l'autre catégorie, يَوْمَئِذٍ نَعِمَةٍ. La première catégorie, ce sont les personnes qui auront, je ne sais pas la traduction littérale du texte de Al-Rashia, mais ce seront des gens qui auront le regard humilié. Hein, ils auront la tête baissée, humiliée, harassée par les châtiments de l'au-delà qui ont commencé depuis le moment qu'ils ont été ressuscités. Et l'autre cas de figure, l'autre catégorie, ça c'est exceptionnel, ça, comme Allah Ta'ala le décrit, et il y aura des gens qui auront les visages épanouis, des gens qui seront heureux. Hein, et pourquoi ils seront heureux? Et ce verset est magnifique. Lisa'iha radiya. Ça c'est exceptionnel, ça. Ça résume notre vie du dunya, et ça fait arrabtu, ça fait le lien entre la vie de ce dunya et le akhira. Pourquoi ces gens-là, le jour de la résurrection, c'est peut-être des gens qui étaient dans la même masjid que nous, dans notre ville, dans notre quartier, peut-être même dans notre immeuble, et dans un même bloc, dans une même famille, allez, on va dire, dans une même fratrie, il y aura, il y a des gens, un frère qui aura, et l'autre, la différence c'est quoi? C'est comme l'Éternel dit que ces gens qui seront épanouis, heureux, apaisés, le jour de la résurrection, c'est quoi la raison? Tout simplement, les sa'iha radia, par rapport à leur parcours de ce dunya. Ils sont heureux, le jour de la résurrection, pourquoi? Parce que de ce dunya, ils ont obéi aux ordres d'Allah. Et qui dit obéissance aux ordres d'Allah, c'est accomplissement de ce qu'Allah a rendu obligatoire, bien sûr. C'est également de ne pas abandonner ce qui a été rendu obligatoire et c'est de rester éloigné de tout ce qu'Allah Ta'ala a rendu, a décrété haram. Donc, de ce verset, de ce surat qui est magnifique, il décrit les deux catégories. On pose le décor, si je peux me permettre, deux blocs, deux catégories de personnes et puis on va expliquer quelle sera la destinée de chacun. Avec une petite description des adats de Jahannam, voilà, qu'Allah nous protège, et une petite description des bienfaits du paradis pour l'autre. Et la moitié de ce sourate déjà résume notre vie de ce monde. Il nous fait comprendre que notre vie de ce dunya est éphémère. Ça, on l'a maintes et maintes fois dit, maintes et maintes fois entendu. Autant d'années on pourra vivre, on pourra être centenaire si on le veut, mais on sera centenaire. On ne sera jamais éternel. Si notre prophète sallam n'a pas eu la vie éternelle, personne ne peut vivre éternellement. Mais ce laps de temps qui est court, c'est la période de la vie la plus courte. La période de la vie la plus courte, avant la vie qu'il y avait avant la naissance, dans le monde des âmes, c'est plus court que la période qu'il y aura dans la tombe, et elle est plus courte, bien sûr, de la période qui sera de l'akhira, c'est-à-dire l'éternité. Mais tout, al-madar, tout va tourner autour de ce laps de temps, de ces dizaines, quinzaines, trentaines, cinquantaines, soixantaines d'années, en fonction de notre parcours à Sa'i. Est-ce que nous serons parmi ces gens qui, le jour de la résurrection, seront heureux parce que les Sa'iha radiya, parce qu'ils ont vécu comme Allah Ta'ala l'a demandé. Ils ont vécu selon le mode de vie du prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Alors, que nous expliquons, comme on avait commencé avant les vacances, quelles seront les conséquences des péchés pour le musulman pécheur le jour de Qiyamah, c'est ce qu'on appelle At-Tarhib. Certaines personnes n'apprécient pas. Certaines personnes disent que oui, ben, il ne faut pas faire peur aux gens. Il ne faut pas annoncer les mauvaises nouvelles. Le prophète avait été envoyé comme Bashir ou Nadhir. Il annonçait les bonnes nouvelles. Et on ne doit pas nous parler des châtiments. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça qu'un discours correct, c'est un discours qui va mixer entre At-Tarhib et At-Tarhib. L'encouragement et la mise en garde. Mais là, je suis désolé, mais là, c'est la partie de la mise en garde. Donc, le but, c'est de voir les conséquences des péchés le jour de Qiyamah. Parce que, d'une manière générale, ça c'est important, lorsque nous parlons de péché, et lorsque nous mettons en garde quelqu'un ou nous nous rappelons nous-mêmes des conséquences des péchés, cela tourne autour de quatre points. Premier point, lorsqu'on parle de péché, lorsqu'on explique à une personne, par exemple, qui consomme de l'argent haram, ou une personne qui abandonne la salat ou autre chose, la première chose qu'on va dire à cette personne, c'est quelles sont les conséquences de ce péché dans ta vie, dans ce dunya. Avant de lui parler de l'au-delà, essayons de ramener le débat à un niveau qui est plus accessible à cette personne. Dans ma vie, c'est quoi le problème si je rate namaz? Et là, on connaît, il y aura plus de bénédictions, il y aura moins donc de bénédictions, de baraka, de l'urizq, il y aura telle conséquence, les cinq conséquences qu'on connaît. Si une personne consomme de l'intérêt, on va l'expliquer que qu'est-ce qu'il y aura dans son cœur, comment sera perçu les revenus, est-ce qu'il y aura baraka ou il n'y aura pas baraka. On peut parler également de ce qu'on appelle al-qalaq, l'angoisse, l'oppression des soudours, l'oppression de la poitrine qu'il y a dans le cœur du pécheur. Il est entièrement faux de croire qu'un homme qui fait ce qu'il veut quand il veut, un homme qui se dit libre, ou une femme, est épanoui. Il est entièrement faux de croire que ceux qui ne sont pas musulmans et qui vont en boîte, qui boivent, qui mangent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, ils n'ont pas de contraintes de salat, ils n'ont pas de ramadan, ils n'ont pas d'impératif, ils ne doivent rien à personne, il n'y a pas de Dieu au-dessus d'eux, selon eux. Il est totalement erroné de croire que ces gens-là sont heureux. Ça, c'est entièrement faux. Parce qu'une personne qui est dans le kufr, il y a une obscurité dans son cœur. Tandis que celui qui est dans le droit chemin, qui a la foi, il y a une lumière dans son cœur. Et moi, en tant que musulman, je ne peux pas imaginer quelle est cette obscurité qu'il y a dans le cœur de mon voisin qui n'a pas iman. Et mon voisin qui n'a pas iman ne peut pas imaginer quelle lumière j'ai dans mon cœur, moi, qui a la foi. Même si je ne suis pas un grand bouzrouk, mais du moment que j'ai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dans mon cœur, il y a dans mon cœur, dans mon sadr, dans ma poitrine, une lumière que le kafir ne peut pas et ne pourra jamais comprendre. Parce qu'il ne croit pas ce que je crois, et il ne croit pas aux conséquences de la vie comme moi je conçois. Pour lui, c'est manger, boire, travailler, dormir, les aventures amoureuses, la fortune, etc., etc. Et quand on meurt, c'est fini. Quand on meurt, il n'y a plus rien. Ça, c'est la conception de la vie du kafir. Et moi, en tant que mu'min, je sais qu'est-ce qu'il y a après. Et je sais, comme l'a dit tout à l'heure, quelle est la relation entre ma vie de ce dunya et la vie du akhira. Donc, la première chose, expliquer aux pécheurs quelles sont les conséquences du péché dans sa vie de 24 heures. Que lorsque je fais un péché, dans mon cœur, il y a quelque chose qui me ronge. Quand quelqu'un qui n'a pas fait son namaz fajr, hein, ça arrive, il ne s'est pas réveillé. Même si ce n'était pas volontairement, c'était pas amdan, pas volontairement qu'il a raté sa salat, il y a un remords qui ronge le cœur de cette personne. Il y a quelque chose dans son cœur qui n'est pas identique à son état d'esprit quand il a fait son tahajjud, quand il a fait son salat le fajr. Et quand une personne accomplit un péché, même s'il ne s'en rend pas compte, il y a quelque chose qui va le miner, qui va le dévorer intérieurement. C'est une tristesse qui habite le cœur du pécheur. Hada. Sans parler de l'obscurité qu'il y aura sur le visage du pécheur, hein, contrairement au mu'min, sur lequel nous voyons le nour, la lumière sur son visage. Deuxième point, lorsqu'on parle de péché et on essaie de donner des nasihats, des conseils à un pécheur, il faut rappeler à ce musulman, on parle de musulman bien sûr, il faut rappeler à ce musulman que lorsqu'on est dans une situation de désobéir à Allah, Allah Ta'ala est mécontent de nous. Et ça, c'est la pire des choses, ça. Que le créateur des cieux et de l'univers, le créateur des cieux et de la terre, de tout ce qu'il y a comme makhlouqat, qu'il soit en colère avec moi. Ça, c'est la pire des choses, que je me mette dans une situation où mon créateur sera mécontent de moi, où il me regardera avec un regard de mécontentement. Que le pécheur intègre cela, il comprendra comment les péchés sont lourds en conséquence. Troisième point, lorsqu'on essaie de conseiller un pécheur, c'est de le rappeler que les conséquences de ce péché, ben, il les verra dès le rarara, comme on a dit tout à l'heure, dès l'agonie. Il le verra également, malheureusement, dans sa tombe. Il le verra à toutes les étapes, et la quatrième est le jour de la résurrection aussi. Parce que le pécheur sera ressuscité parmi les pécheurs, qu'Allah nous protège, quelqu'un qui n'a pas fait salat toute sa vie, quelqu'un qui a consommé de l'intérêt, quelqu'un qui a désobéi à ses parents, dont les parents sont morts en maudissant ses enfants, ou en ayant de son cœur pas de la haine, mais même des ressentiments contre son fils ou sa fille, qui n'a pas fait son khidmat comme il le fallait. Pensez-vous une seconde, peut-on oser penser une seconde, que cette personne-là va être ressuscitée avec les Anbiya, avec les Sahaba, avec les Tabi'in, avec les Siddiqin, les Shuhada, les Salihin, qu'Allah, jamais de la vie. Il sera ressuscité avec les gens qui ont fait les mêmes catégories de pécheurs et qu'Allah Ta'ala nous en protège. Et la quatrième étape, lorsqu'on conseille un pécheur, c'est de lui rappeler que pour chaque catégorie de péché, il y aura un châtiment particulier. Comme on avait expliqué il y a deux ou trois séances de cela, il y a deux séances, l'abandon de la salat n'est pas comme la désobéissance envers les parents. La désobéissance envers les parents, ces châtiments ne sont pas comme les châtiments de celui qui consomme de l'intérêt du riba. Celui qui consomme le riba, son châtiment sera différent de celui qui moudminul kham, de celui qui buvait de l'alcool, de celui qui faisait le riba, la médisance, la calomnie, etc., etc. Tant que les textes nous donnent des informations, nous devons être capables de dire, de retenir et d'expliquer aux gens qu'attention, que pour tel péché, il y a telle mise en garde dans les hadiths où Allah Ta'ala dit le Coran que celui qui fait ça, il y aura telle conséquence, le jour des comptes, il y aura tel supplice, tel châtiment. Donc quand on conseille un pécheur, il ne faut pas lui dire directement que tu es un pécheur, tu n'as pas honte. Non, il faut commencer par la première étape, ce qui le touche directement. Dans ta vie, c'est quoi le problème? Deuxièmement, éveiller sa conscience de musulman, qu'Allah est mécontent de toi. Troisièmement, le rappeler que ta vie est éphémère et qu'à l'issue de sa vie, à l'issue de ta vie, il y aura des conséquences directes quant à la manière que Malik al-Maut va reprendre ton âme. Quant à la manière que tu vas être posé dans ta tombe et qu'est-ce que tu vas retrouver autour de toi. Il y a même certaines versions qui précisent que lorsqu'on donne le roussel au mayet, le mayet, il a les péchés qui sont avec lui et les bonnes actions déjà avec lui. Dès le moment où on donne le bain au défunt. Et rappelez donc les différentes étapes avec la tombe, la résurrection et enfin, ce qu'on vient de dire, les conséquences directes de chaque péché. Et la dernière fois, là on a fait un petit récapitulatif, la dernière fois, on avait vu quelles seront les conséquences de l'abandon de la salat, de l'abandon de la zakat, de l'abandon du jeûne du ramadan et de l'abandon du hajj. Si je ne me trompe pas, on a fait jusque-là du pèlerinage et donc on a bien compris qu'on a parlé des piliers de l'islam. Quelles sont les conséquences pour un musulman qui abandonne un des piliers de l'islam? Comment le châtiment sera terrible le jour de Qiyam? Et en parlant, petite parenthèse, de l'abandon de la salat, on était en train d'enseigner ça aux élèves à la madrasa, les grands. Les lycéens, il y a une matière où on parle d'éducation, de tarbiyah, d'éducation, parce que c'est des grands, des élèves qui ont 15, 16, 17 ans, certains ils ont 18 ou au-delà, c'est des gens qui vont, Inch'Allah, se marier dans 2 ans, 3 ans. Donc la priorité est d'enseigner, les massages du mariage, ça a été fait, alhamdoulilah, et de sensibiliser ces jeunes quant à l'importance de l'éducation, le tarbiyah. Si je laisse mon enfant trouver son éducation à l'école, là pour lui, il va fêter la Saint-Valentin. Moi j'ai mon fils de 6 ans, 6 ans il est en CP, il vient m'expliquer c'est quoi la Saint-Valentin, il me dit des choses que je ne connais pas, c'est la fête des amoureux, c'est la fête telle chose, j'aurais souhaité que mon fils ne sache jamais ce qu'est la Saint-Valentin, mais on ne peut rien faire, on vit dans un pays où il y a une culture, et automatiquement l'école va inculquer cette culture à mon fils. Maintenant, je ne dis pas on ne peut pas envoyer les enfants à l'école, ça on ne l'a jamais dit, qu'il apprenne c'est quoi la Saint-Valentin, qu'il se déguise en canard, en citrouille, ou en coq, ou en caméléon, ou autre bêtise. Le jour de la... Comment on appelle ça? Le mardi gras. Hein, le mardi gras qui se déguise en guignol, le jour du mardi gras. On ne peut rien faire. D'accord? Ça, c'est la culture. Ça fait partie du programme d'éducation. D'accord. Il n'y a rien. Tu t'es déguisé en quoi, toi? Elle dit. Pas déguisé? Voilà, on ne parle pas les lâchements. Ah, donc, oui. Alors, si moi, en tant que papa, ou alors mon épouse, en tant que maman, on va déléguer à son professeur, à l'école de primaire, d'élémentaire, primaire, collège, lycée, le soin d'éduquer mon fils, alors n'attendez pas de ce fils un jour, quand votre barbe sera blanc, quand vous serez à la retraite, quand vous verrez, parce que tout le monde va passer par ces étapes, quand vous verrez vos forces vous abandonner, quand vous constaterez que pour venir à la salade, descendre 2 étages, 3 étages, ou de marcher 3 coins de rue, ça devient de plus en plus difficile, quand vous allez vous rendre compte que vous n'arrivez plus à conduire la voiture, que vous aurez besoin de votre fils ou votre fille pour vous amener chez le docteur qui est à 3 coins de rue, ou pour amener faire votre bazar au chaudron le mercredi matin, alors que vous avez toujours été indépendant pendant 50 ans de votre vie, que vous avez besoin de vos enfants. Vous avez besoin de voir ces enfants que vous avez donnés, nourris, c'est Allah qui nourrit, mais pas à votre intermédiaire, bidnillah, que vous avez nourris, éduqués, vous les avez soignés, vous avez donné votre amour apparemment, et que vous aurez besoin de ces enfants près de vous. N'attendez pas de ces enfants qu'ils vous reconnaissent en tant que papa et maman, comme l'islam le veut. Ils vous reconnaîtront comme père et mère, comme la société les a inculqués, mais pas comme l'islam. Parce qu'il y a un monde, il y a des abîmes, des abysses, on pourrait dire, entre la conception des parents dans notre religion de l'islam, qui est exceptionnelle, la relation qu'il y a entre enfants et parents, et la relation qu'il y a entre enfants et parents dans, par rapport aux valeurs enseignées par notre société. Alors, quand les parents viennent vivre, disent « Mon enfant, il n'obéit pas, mon enfant n'est pas là, mais tout seul », oui, d'accord, mais quand il avait 6 ans, quand il avait 7 ans, c'était là que l'éducation commençait. Après 6 ans, le tarbiyah commence. 6 ans, jusqu'à 6 ans, on ne fera pas un enfant jeune. 7 ans. Papa, il tape pas où? Tape pas. Ben, il faut commencer. Hein? Non, plaisant, tape pas. Le bon garçon. Jusqu'à 6 ans, voire jusqu'à 7 ans, on ne fera pas un enfant. On donne de l'amour à l'enfant. On a déjà expliqué ça plusieurs fois. On passe du temps. On donne du temps. Il y a une différence entre donner du temps et donner des cadeaux. Tu préfères des cadeaux ou du temps? Des cadeaux. Hein, à cet âge-là, on aime les cadeaux. Mais lorsqu'on grandit, on se rend compte, c'est quoi la notion du père absent? Le psychologue, il parle de la notion du père absent. C'est un papa qui n'était pas là, un papa qui était toujours en voyage, en déplacement, qui avait la tête dans le travail. Maman qui avait la tête dans le travail. Et l'enfant, soit, si c'est une famille aisée, il a une assistante, on ne dit plus une naine de nos jours, il y a une dame qui va aider, qui va nettoyer, qui va le baigner, qui va faire son goûter le matin, etc., etc. Et donc, lui, il aura connu cette dame, mais il n'aura pas connu, c'est quoi? L'amour des parents. L'amour que le papa et la maman sont censés donner à l'enfant. Alors même si arrivé pendant les vacances, on va l'amener à Disneyland, à Disney World, au parc Astérix, etc., etc., l'enfant va être content, il va gigoter, il va gesticuler pendant 10-15 jours, mais ce sera sans fond. Il n'y aura pas le véritable amour, le véritable lien qu'il doit y avoir entre papa, maman et ses enfants. Et ce lien doit se perpétuer, et avec, à l'âge de 14 ans à peu près, de 13 ou 14 ans, cet amour se transforme en relation de confiance. Le papa, à l'âge, quand son fils a 14 ans, son fils devient un confident. Son fils le soutient. Comme ça, c'est le Ibn Hazm Ali, radhiyallahu anhu. À 14 ans, on n'est plus un enfant, c'est fini. Même les psychologues vous disent maintenant, les pédopsychiatres vous disent, à 14 ans, l'âge de l'adolescence, l'enfant n'accepte plus les ordres. Et il n'accepte certainement pas les interdits. L'éducation, si vous ne l'avez pas fait à 14 ans, 15 ans, c'est ni les coups de bâton, ni les tavises, ni les doigts démolissables qui changeront quoi que ce soit. L'éducation, soit vous l'avez pendant les 6 premières années de sa vie, puis les 6 deuxième des cas, les 6 autres années de sa vie, soit vous le loupez complètement. Donc, pour revenir à l'importance, enfin, on s'éloigne, l'enseignement de tarbiya, que ces jeunes soient mobiliser, on sensibilise ces jeunes sur l'importance de l'éducation qu'on doit donner à nos enfants, que mon fils va apprendre à lire, à écrire à l'école, il va apprendre d'autres choses, mais moi de mon côté, à la maison, je dois être capable de lui donner quelque chose. Si je ne lui donne rien, ben il prendra tout de l'extérieur. Et c'est ça, dans 98% des cas, on a des jeunes qui restent éloignés de la religion ou des jeunes qui désespèrent leurs parents. Dans 98% des cas, on est méchant, c'est des parents absents. Pas absents physiquement, mais absorbés par le travail et qui n'ont pas donné ce qu'ils doivent donner à leurs enfants en termes d'amour, bien sûr, mais en termes d'enseignement religieux. Et là aussi, qu'on avait dit une fois, on ne délègue pas l'éducation religieuse au moulissable. Ce n'est pas 2 heures par jour avec un moulissable, voire une heure et demie, qui fera de mon fils un homme pieux. C'est l'exemple. Ça, c'est un chapitre exceptionnel sur l'éducation, les choses de base. Hein. Et entre autres, il y a le fait que le papa et la maman doivent donner l'exemple à la maison. Si je dis à mon fils, fais namaz, mais moi-même, je dors karaté le fajr, jamais mon fils fera namaz. C'est comme un père qui fume comme une locomotive et qui dit à son fils, maman, il fume pas, il n'est pas bon pour la santé. N'importe quoi. Ça n'a aucun sens. C'est comme quand ils mettent fumer tue sur un paquet de cigarettes et les gens ils fument. C'est de l'hypocrisie, ça, d'accord? Un père qui ne donne pas l'exemple ne saura jamais éduquer son fils. Si dans sa manière de vivre c'est un contre-exemple, ce que vous direz, vos discours et tout, c'est futilité. Au contraire, l'enfant perd confiance en son papa ou en sa maman. Non seulement il fait n'importe quoi, mais en plus, il dit à moi, fais pas ça. C'est-à-dire que je comprends bien qu'il n'est pas bien dans sa tête. Il dit de faire quelque chose que lui-même ne fait pas. Il y a une cassure, il n'y a rien de pire quand les enfants n'ont plus confiance en leurs parents. Pour ça, petite parenthèse, l'éducation, c'est un domaine magnifique. Hein, il faut s'y approfondir, ne jamais mentir à un enfant aussi. D'accord? Par exemple, si demain, ça m'adresse à demain. Mercredi, papa il ne veut pas, le matin on dit, un exemple, il dit papa ne veut pas aller madrissa, il ne veut pas. Papa il dit non, ça n'est pas madrissa là, ça c'est Nani. Elle dit ah, ça c'est Nani, il est content, il finit de mettre son linge pour sortir, après il a amené madrissa, il fait rentrer madrissa. Yani, en apparence, il a amené madrissa, c'est bien, c'est pas bien, oui, mais un, il y a le péché de mensonge, ça reste un mensonge, même un enfant, et deux, cette personne-là a grillé la relation qu'il y a entre l'enfant et le papa. La relation de confiance qui doit régner. Une fois, le professeur me voit une femme, on a 23 minutes, là encore 2 minutes, une femme qui appelle son fils, un petit enfant dans masjid, dit, viens, je te donne quelque chose. Le professeur m'a observé la scène. Et l'enfant est arrivé, la femme a donné quelque chose. Je ne sais pas c'était quoi, peut-être date ou autre chose, Allahu a'lam. Et le professeur a mis en garde cette femme, si tu n'avais pas donné, attention. Il y a que ça, c'est un péché. Et les mu'addithin me disent qu'en plus d'être un péché, c'est quelque chose de grave dans la relation qu'il y a entre l'enfant et ses parents. Bref. Donc, dans le chapitre sur l'éducation, ça a commencé par un chapitre sur la foi, le iman, des choses de base, subhanallah. Et enfin, ça débouche sur l'enseignement des 5 piliers d'islam aux enfants. On va finir là-dessus, sur ce point-là, c'est important. Et on développera ça la prochaine fois, inshallah. Et là, celui qui écrit le livre, il dit, subhanallah, c'est un travail exceptionnel qui a été fait dans ce kitab. Il a été recherché les citations des savants, des tabi'in, des tabi'in dans les 3 premiers siècles sur l'âge où on doit donner l'habitude à un enfant de faire la salat. Nous savons que le prophète a dit Muru awladakum bis-salat wa hum abna' as-sab'. Ordonnez à vos enfants de faire la salat lorsqu'ils ont 7 ans. Et il a été voir quelle était l'habitude des, comment pourrait dire ça, des mutaqaddimin, des anciens. Il dit que certains anciens parmi les ulama de l'époque, des tabi'in, tabi'in, il dit que lorsqu'un enfant savait distinguer sa droite de sa gauche, ça veut dire qu'il avait la raison. On appelle ça en arabe at-tamayyuz. Il avait la raison, donc à cet âge-là, déjà, on l'enseignait la salat. Et lorsqu'on enseigne un enfant la salat, c'est pas juste que je viens avec mon fils masjid et j'en suis fier, ça c'est une étape. Mais en plus de ça, enseigner les formules à lire et enseigner le gestuel. Pas que la présence de cet enfant va gêner toute la jama'a. Donc, quand on parle des 5 piliers d'islam en termes de tarbiyah, c'est enseigner les 5 piliers de l'islam aux enfants et leur donner l'habitude de les mettre en pratique avant qu'ils soient baligh. C'est-à-dire à partir de 7 ans, l'enfant doit commencer à se faire salat. Le plus tôt possible, il doit commencer à jeûner. C'est-à-dire que l'enfant prenne l'habitude de mettre en pratique les piliers de l'islam. Donc, on va s'arrêter là, on en est à 25 minutes, on ne va pas faire trop long. Alors, Inch'Allah, pour les prochaines fois, maintenant qu'on a déjà vu l'abandon des piliers de l'islam, ce qu'on va faire, c'est des sujets qui fâchent, mais on est obligé de l'aborder, quelles seront les conséquences directes de l'intérêt à Akilur Riba? Quelle sera la situation du musulman qui, dans le dunya, avait l'habitude, ou même l'a fait une fois, à consommer de l'argent de l'intérêt? Soit c'est lui qui prêtait, en demandant de l'intérêt, mais ça n'existe plus de nos jours, ou alors le cas le plus fréquent, j'ai besoin d'argent pour construire une maison, pour acheter une voiture, pour acheter un salon, ou pour acheter l'écran plasma pour la Coupe du Monde, pour telle chose, je n'ai pas d'argent, je vais emprunter avec la banque, ou je vais emprunter avec une maison qui fait des crédits, etc., avec arriba, avec intérêt. J'ai l'impression que j'ai gagné honnêtement, je n'ai pas volé. Oui, je n'ai pas volé. Mais je me demande même si ce n'est pas pire que le vol. Ça ne veut pas dire qu'on va voler plutôt l'intérêt, non. Mais comprenons que c'est un péché aussi grave, voire plus grave que le vol. Arriba, ces gens-là, ils ont déclaré la guerre à Allah et à son prophète. Allahumma salli ala Muhammad. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir comment sera ressuscité celui qui, dans ce dunya, a consommé de l'intérêt et quelles seront les conséquences de ce péché et quels seront les châtiments réservés à cette personne. Ça, c'est un. On va essayer de faire 3 la prochaine fois. La deuxième chose, on va voir quelles seront les conséquences pour un musulman qui, dans le dunya, buvait de l'alcool. Vous allez dire que oui, mais ça, c'est pas pour nous. Non. Malheureusement. Et heureusement, c'est pas notre cas à nous, cette génération. Mais malheureusement, si on faisait un sondage chez les moins de 20 ans, quelle est la proportion de jeunes musulmans de moins de 20 ans qui a déjà goûté à l'alcool, mes chers frères, vous serez surpris. Vous serez horrifiés. Pas surpris, vous serez horrifiés. Et les jeunes qui sont au lycée ou qui sont à l'université, ils savent un petit peu les mouvements, qu'est-ce qui se passe. Hein. Si on regarde quel est le pourcentage de jeunes qui, le vendredi soir ou le samedi soir, vont en boîte, j'espère que ça ne dépasse pas 50%, mais je crains fort. Je n'accuse personne. Maintenant, cette frange de la population des jeunes musulmans qui vont en boîte, pensez-vous, quand on va en boîte, on boit de l'eau zamzam? Non. On est debout. Mais est-ce qu'on boit de l'eau zamzam? Est-ce qu'un jeune est assez bête quand il va en boîte, il boit du jus d'orange, il va boire Sidou, il va boire Louza? Jamais de la vie. Non, on boit autre chose, mes chers frères. Donc, quand un jeune met le pied dans ce genre d'endroit, est-ce que vous pensez que toute une soirée, il va danser avec son camarade de Ifi Namaz à côté de la masjid? N'importe quoi. Est-ce qu'il va danser tout seul comme un fou? Non plus. Il va danser avec qui? Avec une fille. Est-ce qu'il va danser avec sa sœur? Non. Il va danser avec une fille précise qui le plaît. Et s'il danse avec une fille, c'est juste pour s'échauffer? Est-ce que c'est pour perdre des calories, comme on dit, faire du sport régulièrement? Non. S'il danse avec cette fille, c'est qu'il est en train d'essayer de draguer cette fille. Et s'il veut draguer cette fille, est-ce que c'est juste pour faire comme les poètes romantiques, Ronsard et autres, pour expliquer à cette fille que sa chevelure est magnifique, que son teint est exceptionnel, que ses yeux sont d'un bleu où on pourrait se noyer? Non, c'est fini ça. S'il drague cette fille, c'est dans le but que, je le dis crûment, que cette fille termine dans son lit ce samedi soir, de faire le zina avec cette fille. Qu'on comprenne bien que nos jeunes, ils font peut-être certaines erreurs. Il est donc important que nous, en tant que parents, nous sachions quelles sont les conséquences de tous ces péchés en détail. Et cela peut-être nous fera prendre conscience du danger que courent nos jeunes. Hein, on aimerait tous que nos enfants réussissent à l'école, qu'ils aient leur bac, qu'ils aient un bon travail, qu'ils aient une bonne épouse, qu'ils aient une voiture, qu'ils aient un logement. C'est tout ça. Ça, c'est les conditions de la réussite pour un jeune. Bac, études, réussite professionnelle, réussite sur le plan familial, et qu'il ait un travail, et qu'il est bien inséré dans la société. C'est bon, il est parti. Il est parti sur de bons rails, c'est fini. Il a fait son chemin. Ça, c'est le désir de chaque papa et de chaque maman. Maintenant, est-ce que ce n'est pas dans notre tamanna, dans nos objectifs, que le jour des comptes, le jour de la résurrection, que mon fils reçoit son livret de compte de la main droite, qu'il passe sur le pont, le sirat, à la vitesse de la lumière, et qu'il accède au paradis, et que mon fils et que ma fille soient avec moi dans le paradis, qu'on se repose sous l'ombre des arbres du paradis, en reparlant de la vie de ce dunya, en jouissant de tous les ni'amat du paradis? Est-ce que ça ne fait pas partie de nos objectifs? Ou alors moi, en tant que papa, avec ma grande barbe blanche, je me contente de faire mes salades et je serai d'accord que mon fils grille dans le jahannam? Le problème, c'est ça. À partir du moment où on constate que nos projets s'arrêtent au dunya, ça veut dire que nous n'avons... C'est cru, ça. Que nous n'avons pas iman complet sur Al-Yawm Al-Akhir. Peu de musulmans croient au paradis. Que vous l'acceptiez ou non, peu de gens croient en la vie après la mort. Nous le croyons parce qu'on a appris madrasa, parce qu'on entend dans Ta'lim, oui, la vie après la mort, ça existe. Mais combien parmi les musulmans ont iman yaqin sur le paradis? Ont iman yaqin sur le jahannam? Et sur ce qui s'y trouve dans les deux cas. Si vraiment on voyait plus loin, comme le mu'min, al-kayyisu, man dana nafsahu wa amila lima ba'd al-maut. Le musulman intelligent, c'est celui qui fait des efforts pour préparer sa vie après la mort. C'est pas juste pour mes 70 ans. C'est pas que je m'occupe de l'éducation de mon fils pour qu'il soit heureux jusqu'à sa retraite. Non! C'est pas ça le but. Le but, c'est que mon fils soit avec moi dans le jannah. Ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Il n'a pas été dit ayyuhal ladina qu anfusakum minan nar ou nar, non, wa ahlikum. C'est un devoir. Et moi, même si j'ai tracé ma vie, je suis dans le droit chemin, mais je n'ai pas donné cette éducation à mon enfant, le jour de Qiyamah, je serai rappelé auprès du tribunal d'Allah, parce que kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyati, nous sommes tous des bergers. Quand on se marie, quand Allah nous donne des enfants, ce n'est pas juste pour être fier de nos enfants, pour amener l'ambiance de la maison, pour que dimanche, quand on fait biryani, on a 5-6 enfants avec leurs petits-enfants. Ça fait partie des madjas de la vie familiale, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que moi, je suis le père, je suis le patriarche. J'ai 15 ou 16 personnes sous ma coupe, enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants, que je mène ces enfants, ces petits-enfants, etc., etc. Je les mène vers le paradis, comme le berger mène son troupeau vers l'endroit. Wa ma tawfiqi illa billah, qu'Allah nous accepte, mes chers frères. Moi, en premier, hein, je dis plein de choses, mais je suis loin de l'objectif. Notre but, c'est établir la propagation et qu'Allah nous accepte pour mettre en pratique. Qu'Allah fasse rentrer la réalité de ses paroles dans nos cœurs, nous permette de changer nos vies et vraiment qu'on comprenne. Là, on a commencé un programme sur Al-Arba'in al-Nawawiyya, les 40 hadiths d'Imam Nawawi. On a expliqué que le tertib d'Imam al-Nawawi, c'est exceptionnel. Il commence par les hadiths de base. Il vous prend par la main et il vous amène vers la foi. Il vous apprend c'est quoi Ikhlas, c'est quoi Islam, c'est quoi Iman, c'est quoi Ihsan, c'est quoi Taqwa Allah. C'est quoi la foi sur Al-Yawm Al-Akhir? Après, il vous amène d'étape en étape. Comme les Sahaba, ils ont eu la construction du iman pendant 13 années. Le iman est devenu comme un bloc. C'est une fondation solide. Vous construisez ce que vous voulez sur ce iman-là. Vous faites une toile d'un kilomètre, vous faites une toile d'un kilomètre. Vous faites un immeuble, vous faites un garage, vous faites un parking, vous faites je ne sais quoi. Tout pouvait être construit sur ce iman parce qu'il y avait des bases solides. Aujourd'hui, on a mis la charrue avant les bœufs. On a un grand chariot magnifique, cadre motrice intérieur, qu'on a tout. Mais celui al-muharrik, celui qui fait avancer ça, le iman, il n'est pas là. Si déjà, on a pris conscience que j'ai jamais pensé. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé que quand je veux que mon fils soit avec moi dans le Jannah. Si je n'y ai jamais pensé, ça veut dire que je ne me projette pas aussi loin. Alors que je dois vivre pour ça, moi. Moi, ma vie, c'est pour adorer Allah, pour accéder au paradis. Ça veut dire que dans ma base, même, il y a des manquements. Mes chers frères, on a du chemin à faire. Le chemin à faire, on ne notera pas le chemin parcouru uniquement par la tenue vestimentaire, par la longueur de ma barbe et par ma renommée, par mon titre. Si j'ai la base solide, si dans toutes les situations de ma vie, le iman se manifeste, là c'est bon, là je suis dans le droit chemin. Donc à nous de faire le maximum d'efforts pour apprendre. Apprendre le ilm, apprendre le din, pour pouvoir consolider notre foi et pour l'enseigner de manière correcte à nos enfants. Subhanallah, rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, jazakallahu khairan.